Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse. Chine. Comment Liang, L-I-A-N-G, s'en fut sur le chemin de la perfection. Quand Gao, G-A-O, après de longues guerres, eut assuré son règne sur le trône des empereurs de Chine, il ordonna de grandes fêtes. Il y reçut les compliments de ses vassaux, l'assurance que son peuple l'aimait, et l'impérial hommage de 10 000 fleurs, 10 000 musiciens et 10 000 parfums unis ensemble pour lui offrir la migraine la plus carabinée de sa vie. Au terme de ces inoubliables réjouissances, il convoqua dans la salle du conseil ses 9 présidents et ses 4 ministres afin que chacun lui fasse son rapport sur l'état de l'Empire. Quand ce fut son tour, le président Liang, un petit homme frêle en robe rouge et ceinture dorée, sortit du rang, s'avança devant son souverain et lui dit « Vie éternelle à votre majesté, votre humble serviteur constate qu'aujourd'hui le pays est à peu près paisible, que les vents sont propices et les pluies convenables, que votre peuple enfin travaille sans souci majeur. C'est pourquoi le très indigne président que je suis sollicite de votre grandeur la permission de se retirer du monde et d'aller cultiver dans la solitude les vérités de l'âme. Quoi ? Répondit l'empereur Gao, tu veux m'abandonner ? Il fronça les sourcils, se lissa la barbe et dit encore l'œil noir. Peut-être trouves-tu ta charge trop médiocre ?
Certes non, dit Liang, au contraire, je la trouve excessive. Plus on s'élève haut, plus la chute est vertigineuse. Je crains de tomber, Seigneur, et de me faire mal. Voilà le vrai.
Tu déraisonnes, répondit l'empereur. Ta fortune est solide, ta gloire enviable. Tu les délaisserais pour t'habiller de vêtements grossiers et souffrir tous les jours de la faim et du froid dans une cabane de branches. Liang, mon ami, je ne vois là qu'ingratitude envers la vie qui t'a si bien pourvu.
Contempler les saisons, sans désir, sans entrave, nourri de peu, vêtu de rien, Seigneur, quels honneurs valent ces libertés ?
Président, dit Gao, tu oublies tes devoirs. J'ai besoin d'hommes forts et avisés au service de l'Empire.
Seigneur, vous en avez. Votre Empire sans moi ne sera pas boiteux.
Bref, il eut beau plaider, Gao ne parvint pas à fléchir le vieux Liang. Rentre chez toi, dit-il. Pèse le pour, le contre, et demain nous reparlerons de tout cela.
Liang quitta le conseil. Au soir, comme la lune apparaissait à la cime des cerisiers qui ornaient le seuil de sa résidence, 3 mandarins vinrent frapper à sa porte. Il les reçut aimablement. Ses hommes lui disent «
Président, l'empereur nous envoie. Il vous aime beaucoup. Il tient à vous garder. Voulez-vous troubler ses humeurs ? Restez auprès de lui. Il veut que vous soyez son conseiller intime.
Il ne peut pas m'offrir ce que je désire le plus au monde, répondit le vieil homme.
Et quoi donc ?
La paix de l'âme. Il leur servit du thé, puis les congédia et s'en fut dans la chambre de son épouse. Il lui dit son intention de quitter cette riche demeure où il vivait paisible et d'aller seul cultiver la perfection dans une hutte de montagne. Elle lui répondit « Mais ne pouvez-vous pas la cultiver ici ? Ce palais, ce confort ne sont pas favorables. Mon époux, je vous connais, vous reviendrez bientôt, vous aimez bien manger, bien boire, vous vêtir de belles soies saillantes, parler aux assemblées, parader avec des érudits. Vous tiendrez quelques jours dans le froid des forêts, le temps de prendre un rhume.
Je ne reviendrai pas. Voulez-vous nous laisser, moi-même, nos enfants, sans soutien, sans ressources ? Président, êtes-vous donc un père ou un brigand en fuite ?
Femme, si je mourais, me reprocheriez-vous d'être un fuyard ?
Mais vous êtes vivant.
je ne suis plus de votre monde. » Le lendemain matin, sans adieu à personne, il s'en alla de bonne heure. Il ne prit ni souliers ni vêtements de rechange, pas même un sac de vivres. Les polices de l'Empire le recherchèrent une année durant. Ce fut en vain. Alors, l'empereur Gao, qui ne pouvait se résigner à la perte de son très estimé président, fit clouer une affiche sur la porte de son palais. Il y était écrit, en lettres rouges, que la moindre information sur la retraite du vieux Liang serait payée d'un sac d'or et d'une charge de mandarin. Un jour, un bûcheron fendit la foule de la place, arracha les criteaux et entra dans la demeure impériale. « Majesté, dit-il, le président Liang est au mont des nuages blancs. Il est en bonne santé, quoique fort maigre, et entretient passionnément devant sa cabane un jardin d'une ridicule exiguïté. À mon sens, il est heureux. » Ces paroles réjouirent infiniment l'empereur. Il fit aussitôt équiper son char et partit pour cette montagne où demeurait l'ermite. Après 3 jours de voyage, comme il escaladait la pente, il aperçut enfin Liang au bord du chemin. Des oiseaux voletaient autour de lui. Contre son flanc, un cerf broutait l'herbe. L'empereur quitta son attelage et s'approcha, les bras ouverts. « Vie éternelle à votre majesté, lui dit le vieil homme. Je suis content de vous voir. En vérité, votre présence me manquait. »
« Liang, mon cher président, lui répondit Gao, nous t'avons fait chercher partout. Le peuple te réclame, ton épouse, tes enfants aussi, et moi-même, tous les jours, je souffre de ton absence. Vois ce char qui t'attend, mes chevaux même sont impatients de te ramener à la cour. »
« J'y reviendrai volontiers, répondit le bonhomme. J'ose cependant poser une condition à ce bienheureux retour. Que votre majesté daigne prendre une tasse de thé en ma compagnie dans ma cabane. »
« Je le ferai de grand cœur, dit l'empereur. Conduis-moi donc, ami. »
Parmi les rocs et les arbres aux cimes brumeuses, ils gravirent un moment la pente jusqu'à parvenir au bord d'un torrent qui cascadait au fond d'une faille profonde. Au travers de ce gouffre était posé un pont. Et ce pont était fait d'un tronc d'arbre branlant, pourri, mouillé d'embrun. Liang le franchit en fredonnant d'un pas de funambule. Puis, à Gao, sur l'autre rive, il désigna sa hutte à quelques pas de là. « Venez donc, majesté, lui dit-il, nous sommes presque arrivés. »
Gao palpa du pied l'instable bout de bois, recula. Il gémit. « Hé, je vais me tuer !»
Quittez votre manteau, vos bottes, votre peur, tout cela vous encombre. Faites-vous léger.
Mais je tiens à la vie.
Risquez-la, majesté.
Mais Liang, je ne peux pas. Vois, je pèse un bon poids. Ce pont va s'effondrer.
Ils restèrent un moment, face à face, chacun sur sa rive du gouffre. Liang dit enfin. « Revenez donc à votre monde et laissez-moi au mien. 1000 bonheurs sur vous, je boirai seul mon thé. » Il tourna les talons et rentra dans sa hutte. Le fils du tigre. Il était une fois un garçon sans famille. Ses parents étaient morts. Il labourait les champs du seigneur du village. Sa vie était comme un voyage sans bonheur. Un soir, après qu'il eut poussé la charrue tout le long du jour, il prit son bœuf par l'encolure, posa sa joue contre son mufle et resta un moment à pleurer. Enfin, il murmura. Pourquoi n'ai-je à manger que des racines et des herbes amères? Pourquoi ne suis-je pas aimé?
Un rugissement fit tout à coup trembler l'air du crépuscule. Un tigre bondit hors de la forêt proche, trotta jusqu'au bord du champ et dit à voix humaine. Viens avec moi, Chia. S-H-I-A. Viens, je suis ton père.
Mon père ? Prouvez-le, répondit Chia tout tremblant.
Vois, mon fils, dit le tigre.
Il lui tendit la patte. Chia vit briller autour d'elle un bracelet d'argent. C'était celui-là même qu'il avait passé au poignet de son père avant de le porter en terre. Il dit « Pourquoi me reviens-tu dans la peau d'un tigre ?» La bête répondit
« Monte sur mon dos, mon garçon, et partons. »
L'un chevauchant l'autre, ils s'en allèrent. L'antre du tigre était au fond de la forêt. Ils passèrent là quelques années tranquilles. Le père, chaque matin, allait à la chasse, ramenait du gibier qu'il dévorait cru. Chia faisait rôtir sa part devant la caverne. La nuit, il écoutait les oiseaux dans les arbres. Parfois, sa flûte répondait à leurs chants. Un jour, après le dîner, son père tigre lui dit
« Chia, il serait bon que tu te maries. Nous irons ce soir au village voisin. »
À travers les forêts et les champs, ils allèrent sans bruit jusqu'aux maisons où les lampes brûlaient. C'était le plein été. Des lambeaux de nuées traversaient la lune. Sur la place, des filles riaient et bavardaient. De l'abri où ils étaient, ils les examinèrent, puis le père tigre dit « Quel veux-tu ? Choisis !» Chia les observa un long moment encore. Enfin, il répondit. « Je veux la fille laide, assise sur le banc, celle qui se tient à l'écart des bavardes. »
Le tigre sortit de l'ombre en rugissant. En trois bonds, il fut sur elle. Les autres, les bras au ciel, s'enfuirent en hurlant. Il emporta sa proie et sortit du village. Chia le rejoignit, prit la fille sur son dos.
Personne ne les poursuivit. Ils eurent bientôt rejoint leur caverne au fond de la forêt. Ils vécurent 3 ans sans souci. Quand ce temps fut passé,
« Mon fils, dit le tigre, nous devons aller présenter nos respects aux parents de ta femme. »«
C'est vrai, lui répondit Chia, mais la coutume veut que nous n'arrivions pas les mains vides au village. Où trouver des cadeaux convenables ?»«
Peigne-toi, lave-toi, et pour le reste, mon fils, fais confiance à ton père. »
Le tigre s'en alla. Il courut jusqu'à la ville. Sur un marché que fuyaient en tous sens les gens épouvantés, il vola un cochon gras, un flacon de vin, 2 paniers de riz, et s'en revint au bois. Le lendemain matin, Chia et son épouse se mirent en chemin. Il joua de la flûte pour alléger leur marche et sa femme chanta. Père Tigre, soucieux de ne pas effrayer les gens de rencontre, les suivit de loin. Vers midi, des brigands leur barrèrent la route. Ils avaient 3 poignards chacun à la ceinture.
« Ton riz, ton vin, ton porc » dirent-ils à Chia.
« Comment vous les donnez ?» répondit sa femme. « Ce sont des cadeaux pour ceux de ma famille. »
Les autres ricanèrent et firent luire leurs couteaux devant leur figure.
Chia se retourna et cria « Père !»
Le tigre répondit « Chia ! Chia ! Chia !»
Les brigands firent « Oh !» puis « Aïe !» puis « Oula !» et s'enfuirent en désordre à travers les fourrés. Comme la nuit tombait, les 2 époux arrivèrent aux maisons familières.
« Allez seul, dit le tigre. « Moi, j'ai les pattes sales et je pue la forêt. Je resterai dehors. Demandez simplement qu'on me porte à manger. »
La femme de Chia entraîna son mari jusqu'à la demeure de ses parents. Elle frappa à la porte. Sa mère vint ouvrir. Elle leva la chandelle devant les visiteurs et voyant sa fille avec un inconnu, elle s'empoigna les cheveux en criant au fantôme. « Mère, la paix sur toi. Je suis bien vivante. Le tigre qui m'a emportée était en vérité un homme de bon cœur. Il m'a donné son fils que voici en mariage. Nous vivons heureux. Nous venons en visite avec quelques cadeaux. » La mère ouvrit ses bras. La fille fit de même.
Elles s'embrassèrent en pleurant et en riant. Le père vint aussi. Il embrassa son gendre. On but, on mangea, on joua de la flûte en l'honneur des ancêtres. Puis Chia demanda une cuisse de porc. Il la mit sous le bras et sortit. Le tigre vint à lui.
« Merci, mon fils, dit-il, et adieu. Je m'en vais. Pour t'aider, j'avais pris cette peau de bête. J'ai fait ce qu'il fallait. Je retourne dans l'au-delà où je dois demeurer. Reviens dans la forêt avec ton épouse. Creuse un trou sous l'arbre le plus grand. Tu trouveras dedans 6 cheveux, 3 brillants comme de l'or et 3 blancs comme la neige. »
Ayant ainsi parlé, il s'éloigna et disparut bientôt comme fumée au vent. Le lendemain, Chia et son épouse saluèrent leur famille et s'en retournèrent à la forêt. Au pied de l'arbre le plus grand qu'ils trouvèrent, ils creusèrent un trou. Ils découvrirent les cheveux. Au-dessous d'eux étaient 6 pots de terre cuite. 3 étaient emplis d'or et 3 d'argent. Ils achetèrent une ferme, un troupeau, des champs, des pâturages. On travailla pour eux. Chia ne cessa plus de jouer de la flûte. Il devint si bon musicien qu'un jour d'entre les jours, Zi Tezedi, le dieu de la mort, ému par ses chants, l'invita à venir égayer son palais. Chia, en ce temps-là, allait sur ses 100 ans. Il prit son bâton et s'en fut dans l'au-delà. Sa femme l'accompagna jusqu'aux hautes montagnes où sont les portes du royaume de Zi. Elle lui dit, « Je t'attends, mon homme. Reviens bientôt. » Il répondit, « Peut-être. » Elle l'attendit longtemps. Elle le vit un jour venir par le sentier. « Rentrons chez nous, » dit-elle. Ils s'en allèrent. Mais bientôt, elle vit que l'herbe ne ployait pas sous les pieds de son époux, que ses sandales ne s'enfonçaient pas dans la boue des marais, et qu'il marchait sans peine au-dessus des ruisseaux. Alors, elle se coucha sur la terre, et ce fut à Chia, son époux, de l'attendre. Quand elle fut enfin aussi légère qu'une brume, lui jouant de la flûte, et elle fredonnant, ils revinrent au royaume de Zi. Le bosquet d'oranger. Cet homme et cette femme vivaient il y a longtemps dans leur maison de terre au pied de la montagne. L'homme chassait, pêchait et cultivait son champ. Son épouse tenait le ménage. Ils s'aimaient sans souci. Un matin de printemps, l'homme alla relever ses pièges parmi les buissons du mont. Or, comme il traversait un bosquet d'oranger, il vit venir une fille aux pieds nus, belle comme un miracle et rieuse comme un œil de source. Elle le salua d'un air si vif qu'il se sentit troué. Il se reprit aussitôt. « Le temps de la semaille approche, pensa-t-il. J'ai du travail dehors et du bonheur dedans. « Fille, laisse-moi passer, dit-il. » Elle lui répondit. « Je te vois tous les jours et tu ne me vois pas. Toutes les nuits, je rêve de toi. « Par pitié, aime-moi, une année ou le temps d'un nuage au travers du soleil, qu'importe la durée, tu m'aideras à vivre. » L'homme sentit son sang s'échauffer. La fille l'entraîna sous le feuillage. Quand la brise du soir se leva, il s'en revint chez lui. Sa femme lui servit à dîner. L'homme resta rêveur, pensant à cette fille, à son regard embrumé, à sa chevelure répandue parmi les herbes. Il ne put rien manger. Le lendemain, dès le point du jour, il courut au bosquet, espérant n'y trouver personne. Mais celle qu'il craignait et désirait aussi était là, fraîche, vive. Elle lui prit la main. Il la suivit encore. Au soir, le front ridé devant son bol de riz, « Je me sens malheureux, dit-il. J'ai froid dans l'âme. J'ai peur de mourir. Repose-toi, mon homme, répondit son épouse. 4, 5 et 6 soirs, il s'en retourna vers sa maison basse, portant de jour en jour une peine plus lourde. Au 7e matin, sa femme, comme à son habitude, lui mit le sac à l'épaule et dès qu'il fut parti, elle sortit. D'ombre en ombre, sous les arbres, de loin, elle le suivit. Il chemina sans rien voir alentour, pressé de retrouver celle qui lui faisait, il ne savait pourquoi, autant de bien que de chagrin. L'épouse, à peine entrée dans le bosquet d'orangers, vit la fille sortir d'un feuillage. Elle la trouva belle. La douleur qu'elle en éprouva lui fit mordre ses lèvres, mais elle resta droite à l'abri du rocher qui la dissimulait. Elle vit son époux s'enfoncer sous les branches avec son amoureuse et soudain disparaître. Elle attendit le soir. Quand les amants revinrent, elle resta cachée. Quand ils se séparèrent, elle ferma les yeux. Quand son époux s'en fut, elle suivit la fille. Elle la vit alors ouvrir ses bras en gémissant et se changer en arbre. Elle n'était pas humaine, elle était un esprit. L'épouse retourna à sa maison, servit à son mari un gobelet d'alcool, mit le couvert, s'assit. Comme il restait immobile et muet, elle lui dit « Mon homme, pour soulager ta peine, j'irai chercher remède au ciel s'il le fallait. » Il répondit « Ma femme, une fille m'a dit que pour guérir du mal qui me ronge, je devrais dévorer ton cœur, tes reins et ton foie. Je préfère mourir. Je veux bien te servir ma cervelle à dîner, dit-elle. Que vaut ma vie sans toi? Écoute donc. Demain, ramène-moi 3 lièvres, 3 perdrix et 3 essaims d'abeilles. Invite aussi la fille avec ses sœurs et ses frères. Nous mangerons ensemble. Puis, s'il le faut, tu m'ouvriras le corps et tu prendras dedans tout ce que tu voudras. » L'homme baissa la tête. Au soir du lendemain, il s'en retourna au logis avec sur son épaule 3 lièvres, 3 perdrix et 3 essaims d'abeilles, avec aussi la fille, ses frères et ses sœurs. Tous paraissaient joyeux. Son épouse leur servit un beau repas de fête. Jusque passé minuit, ils burent du vin et de l'alcool de riz. Quand ils furent tous ivres, la femme, à pas menus, vint derrière le siège de son mari. Elle lui dit à l'oreille, « Regarde tes amis, l'ivresse les endort. Ils ne peuvent plus cacher leur nature véritable. Leur visage était vert. Et leurs chevelures s'étaient changées en rameaux feuillus. Les mains de la fille s'étaient couvertes d'écorce, ses joues aussi par croûte brune, ses yeux s'éteignirent et furent soudain comme des nœuds de bois. « Femme, que faire ?» gémit l'époux. La femme répondit, « Mon homme, avant le jour, menons ces créatures au bosquet, répandons de la paille autour des orangers et allumons le feu sous les arbres. Tu seras délivré, je le serai aussi. » Au premier chant du coq devant l'orangerie, ils se prirent la main et regardèrent l'incendie qui brûlait haut. Le ciel rougeoyait. Dans le cœur de l'époux était une tristesse inguérissable. Dans le cœur de l'épouse était une peur vague. Sans vouloir, pensa-t-elle, mon homme m'a fait mal. Peut-être moi aussi vais-je lui faire mal maintenant, sans vouloir. Ils revinrent chez eux, lentement, en silence. Les deux amis. Zhang, Z-H-A-N-G, était de Nanchen, N-A-N-C-H-E-N. Il n'avait pas pris femme, bien qu'il eût passé 30 ans. Il vivait de son champ et de quelques moutons, avec sa mère et son frère cadet. Il apprit un jour que l'empereur cherchait des hommes de talent capables de rendre la justice et d'instruire le peuple. Il se dit que seule l'absence de diplôme l'empêchait d'être de ces gens estimables. Il résolut donc d'aller passer les examens nécessaires à la capitale. Il fit son baluchon de livres et s'en alla. Il voyagea 10 jours sans rencontre notable. À une journée de marche de la grande ville, il s'arrêta dans une auberge où il loua une chambre pour la nuit. Des appels pitoyables et des gémissements dans la chambre voisine ne lui permirent pas d'y trouver le repos. Après s'être 100 fois retourné sur sa couche, il descendit dans la salle commune et demanda au valet de ménage qui se plaignait ainsi. L'autre lui répondit que c'était un lettré malade qui était au bout de sa vie et que l'on répugnait à le soigner parce que son mal était contagieux. Zhang s'indigna que l'on abandonnât ainsi ce pauvre homme à ses souffrances. Il revint à l'étage, décidé à lui porter secours. Le valet le poursuivit. « Vous risquez d'en mourir, dit-il. » Zhang lui répondit. « Qu'importe. Si mon heure est venue, personne n'y peut rien changer. » Il poussa la porte de la petite pièce où le moribond haletait sur une litière de paille terreuse. Sa face était baignée de mauvaises sueurs. Zhang se pencha sur lui et murmura « Soyez sans crainte, vous n'êtes plus seul. » Il le soigna 5 jours durant, lui fit des bouillons, des tisanes, lava son corps, l'enveloppa de couverture chaude et l'encouragea tant à vivre qu'au 6e matin, le malade se réveilla aussi faible qu'un oisillon, mais délivré de toute fièvre. Il ouvrit les yeux et dit à Zhang, « Seigneur, je vous ai fait perdre beaucoup de temps et vous m'envoyez affligé. Mon nom est Fan Shi, F-A-N, plus loin S-H-I. » Il sourit à son sauveur. Zhang lui répondit, « On ne perd pas son temps à secourir ses semblables. Je suis heureux d'avoir pu vous aider à traverser cette épreuve. » Ils parlèrent ensemble et bientôt se lièrent d'amitié. Chacun de son village s'était mis en chemin vers la capitale afin d'y concourir aux examens de droit, mais désormais, tant pour l'un que pour l'autre, il était trop tard. Ils s'attardèrent donc 1 mois dans cette auberge, à boire et parler, à lire des poèmes, à resserrer enfin leurs liens fraternels. Après ces jours aimables, il leur fallut songer à se séparer. La veille de ce départ, parmi les chrysanthèmes et les feuillages roux, Fan Shi dit à Zhang, « C'est demain la fête du double neuf, petit frère, c'est-à-dire le 9e jour du 9e mois. Souvenons-nous de ce jour. Dans une année exactement, si tu me le permets, je viendrai sans faute chez toi. Je n'ai plus de parents, ta mère est maintenant ma mère, et j'ai hâte déjà de lui témoigner mon affection. » Zhang lui répondit, « Grand frère, je suis pauvre, mais si tu me fais l'honneur de ne point manquer à ta parole, je te régalerai d'un poulet au millet. Comment pourrais-je oublier ce rendez-vous avec mon frère juré, dit Fan Shi. » Ils rirent ensemble, puis pleurèrent dans les bras l'un de l'autre. L'instant était venu de la séparation. Zhang, de retour chez lui, conta son aventure à sa mère et à son cadet, après quoi il se remit au travail des champs avec une ardeur nouvelle. 1 mois avant la fête du double neuf, il fit engraisser le plus beau poulet de sa basse-cour. Aujourd'hui, il se leva de bonne heure, balaya sa maison, fit brûler de l'encens, orna la table de pétales de fleurs, disposa des sièges et alluma le feu sous la marmite. Sa mère lui dit, « Le village de ton ami est à 10 jours de marche. Il ne serait pas impossible qu'il ait quelque retard. Attends son arrivée pour cuire ta volaille, fils impatient. » « Mais comment Fan Shi pourrait-il être en retard au rendez-vous du double neuf ?» répondit Zhang. Si j'attends sa venue pour me mettre à la cuisine, il pensera peut-être que j'ai manqué de confiance en sa parole. ou que je suis un ami négligent, et j'en mourrai de honte. » Il se vêtit de beaux habits et s'en alla faire le guet devant sa porte. Sur les arbres pourpres de l'automne, le soleil brillait comme au plus beau jour de l'été. Zhang attendit jusqu'à midi, courant à la lisière du village dès qu'il entendait des chiens aboyer. Comme personne ne venait, son cadet s'en alla travailler au champ. Au soir, quand la lune apparut dans le ciel pâli, sa mère sortit sur le chemin et lui dit « Zhang, mon fils, il est temps de rentrer. Il semble que ton ami ne viendra pas aujourd'hui. » « Il viendra, mère, il viendra, » répondit Zhang. Il ne voulut pas goûter au vin chaud que son cadet lui apportait. Jusqu'à minuit, il espéra, guettant les pas lointains, les bruissements des herbes. Comme il allait et venait en ruminant son inquiétude, il aperçut enfin sur le chemin, désert, au loin, une ombre humaine. Il s'approcha, titubant comme un ivrogne, tant il était fatigué. Il reconnut Fan Shi, il tomba à genoux, se releva d'un bon rit, s'exclama, dit enfin, « Je t'attends d'arrache-pied depuis l'aube et te voici, merveille. Le poulet au millet est prêt depuis midi, j'ai balayé le seuil. Entre, grand frère, entre. » Fan Shi le suivit sans un mot. La chandelle et le feu s'épuisaient dans la salle. Zhang tisonna les braises. Son compagnon resta debout, pâle comme un cadavre. « Petit frère, dit-il, pardonne mon retard. » Zhang lui ouvrit les bras. Fan Shi recula, leva la manche devant son visage et dit encore, « Ne me regarde pas. Je ne suis plus du monde des vivants. Frère, écoute-moi pour la dernière fois. Sache qu'après t'avoir quitté à la porte de notre auberge, je me suis fait marchand pour nourrir ma famille. J'ai travaillé sans repos, les heures et les jours ont traversé ma vie comme le sable fuit entre les doigts. Ces temps derniers, j'ai fait de mauvaises affaires. J'étais en grand souci. Ce matin, comme je sortais de mon lit, j'ai entendu les chants de la fête du double neuf dehors, dans la rue, et je me suis souvenu de notre promesse. Un vertige m'a pris. Entre nos deux maisons, 10 journées de voyage. Comment venir en une matinée? J'ai réfléchi. J'ai pensé que seul un spectre porté par le vent des ténèbres pouvait parcourir en un instant une aussi longue route. J'ai dit à ma femme, « Mon frère Zhang viendra sans faute à mes funérailles. Attends son arrivée avant de me porter en terre. » Je lui ai baisé les mains. Je me suis tranché la gorge et mon âme est venue au rendez-vous juré. Cher petit frère, j'espère que tu auras pitié de ma sottise et de ma négligence. Et si tu ne crains pas de faire un long chemin pour saluer ma dépouille, alors je quitterai le monde sans regret. Après avoir ainsi parlé, Fan Shi se détourna et s'en fut à la porte. Zhang le poursuivit, trébucha contre la pierre du seuil et tomba de son long dans la nuit froide. Quand il se releva, Fan Shi avait disparu. Il ne vit qu'un oiseau s'envoler d'un buisson proche. Alors, il se mit à sangloter si fort qu'il réveilla sa mère et son cadet. On lui fit avaler un gobelet d'alcool, on frotta ses tempes d'esprit de sel. Quand enfin il s'apaisa, ce fut pour dire adieu à ses êtres aimés qui le suppliaient de prendre du repos. Il s'en alla dans le jour à peine né. Tout au long de son voyage, il mangea et dormit à peine, quittant avant l'aube les auberges où il faisait halte et se nourrissant de galettes de blé dur sans cesser de cheminer. Il parvint au village de Fan Shi après une semaine de marche, courut à sa demeure, mais n'y trouva personne. Un voisin lui dit que l'épouse et les amis du défunt était allé enterrer son corps sur la colline au-delà des remparts. Zhang s'y rendit aussitôt. Il trouva une femme en grand deuil et un enfant d'une dizaine d'ans agenouillé devant le cercueil. Autour d'eux étaient des gens en grand nombre.
Il parlait à voix basse, l'air apeuré. Zhang demanda, « Est-ce la sépulture de Fan Shi ?» Sa femme fit oui de la tête et répondit, « Sans doute êtes-vous Zhang, son frère juré. Cher oncle, soyez le bienvenu malgré ces douloureuses circonstances. Mon époux, à l'instant de mourir, a exigé que je vous attende avant de le mettre en terre. Mais j'ai supposé que vous ne viendriez pas, puisque ni moi, ni aucun membre de ma famille ne vous avait prévenu de son décès. Je me suis donc résigné à ses funérailles. Hélas, quand nous avons voulu descendre son cercueil dans la fosse, aucun des hommes ici présents n'a pu le déplacer. N'est-ce pas un prodige épouvantable ? » Zhang tomba à genoux près d'elle, en pleurant d'abondance, puis il parla longuement à son ami défunt. Il fit une prière, après quoi la caisse de chêne où était la dépouille put être soulevée sans effort. Zhang dit alors à l'assemblée, « Fan Shi est mort pour moi. Comment pourrais-je vivre désormais ? Je vous supplie de me faire inhumer auprès de lui et de ne pas vous effrayer du sang qu'il me faut maintenant répandre. » Il tira son poignard de sa ceinture, ferma les yeux et se trancha la gorge. L'empereur Ming, M-I-N-G, informé de ces événements, fut grandement ému par l'extrême amitié de ces deux hommes. Afin qu'ils demeurent un exemple pour les générations futures, il décida que chacun d'eux porterait désormais le titre de comte, bien qu'ils n'eussent point satisfait aux examens nécessaires. Puis il fit élever devant leur tombe un sanctuaire, aujourd'hui encore honoré sous le nom de Temple de la Fidélité. Fin de la deuxième face de la quatrième cassette, Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, page 179. Pour éviter d'interrompre le conte suivant, j'ai laissé la fin de cette cassette en blanc. Laisse donc se dérouler la cassette jusqu'à la fin. Au revoir.